locales. Alexander Lukashenko firmó un decreto sobre la realización de un nuevo proyecto espacial con Rusia. Belarus y China preparan plan de cooperación para el periodo hasta 2030. Cerca de 30 proyectos de inversiones se planea implementar en el sistema del Ministerio de Silvicultura en 2024. La tercera victoria consecutiva del equipo de hockey Metalurg en la Copa del Presidente. Ahora, sobre estos y otros temas en detalles, primero tocaremos los temas oficiales. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, firmó el decreto número 150 sobre el sistema espacial belaruso de telesondeo de la Tierra. El documento tiene prevista la realización del proyecto conjunto entre Belarus y Rusia para el desarrollo del sistema espacial belaruso de telesondeo de la Tierra para los años 2024-2028. El decreto define a los participantes del proyecto por parte de la República de Belarus y las condiciones de su actividad. Una vez finalizado el proyecto, se espera el lanzamiento de una nave espacial belaruso-rusa de teleobservación de la Tierra de resolución ultra alta con un periodo de vida activa en la órbita de no menos de 7 años. El uso de la nave espacial favorecerá significativamente la eficacia de la solución de problemas para garantizar la seguridad nacional, la rapidez y la calidad de la información espacial proporcionada a los consumidores, se convertirá en un motor para el desarrollo de alta tecnología de la industria espacial, atrayendo a los jóvenes talentosos. La aplicación del decreto contribuirá a consolidar la imagen positiva de Belarus como potencia espacial y estado de alta tecnología, así como promover a los conocimientos y las competiciones nacionales en el ámbito de la exploración pacífica del cosmos. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, convocó una reunión dedicada a la preparación de la primera sesión de la 7ª Asamblea Popular de toda Belarus. Quedan menos de una semana los preparativos para la primera sesión de la 7ª Asamblea Popular de toda Belarus están en su fase final. Como lo hemos acordado anteriormente, discutiremos una vez más los problemas de organización para garantizar el trabajo efectivo de la Asamblea Popular de toda Belarus. Ha sido creado el comité organizador que, como me informan constantemente, se reúne, trabaja, elabora los documentos básicos. Sin embargo, queda una serie de cuestiones que se refieren a la presidencia permanente. Los vicepresidentes, es necesario consultar qué procedimiento ofreceremos a la Asamblea Popular de toda Belarus para nombrarlos. Es decir, es necesario garantizar todo el proceso del funcionamiento normal de la Asamblea Popular, comenzando con los adornos urbanos para el evento sin excesos, para que no gastemos dinero en vano hasta la sala de reuniones. El jefe de Estado se enfocó también en algunas cuestiones de organización relacionadas con la provincia de los delegados de la Asamblea Popular de todo lo necesario. Una vez más, quiero pedir que se preste atención a los delegados de la Asamblea Popular, incluso el suministro de alimentos, alojamiento, los materiales necesarios para el trabajo que se ha hecho en este sentido, que queda por hacer.
Что в этом плане сделано, что еще предстоит сделать, Роман Александрович докладывает.
Como informó el primer ministro Roman Golovchenko, el comité organizador ha realizado un gran trabajo para preparar la sesión, cumpliendo con todas las instrucciones dadas por el jefe de Estado en relación con este evento. De momento, la composición de los participantes de la Asamblea Popular está completamente formada. Los problemas de su transporte, alojamiento, alimentación y seguridad se han resuelto en detalle, aseveró Roman Golovchenko. El ministro de Asuntos Exteriores de Belarus, Sergei Alenik, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional Popular de Argelia. Las partes discutieron toda la agenda de las relaciones bilaterales planeada, así como la situación internacional. Fue destacado que no podía haber diplomacia ni política sin una cooperación económica y comercial sostenible. En este sentido, la atención prioritaria fue prestada a los proyectos de cooperación más prometedores, principalmente en la esfera agroindustrial, alimentaria, área de ingeniería y comunal. Asimismo, fue abordado el tema de la seguridad alimentaria y se discutieron las cuestiones de cooperación en los campos de ciencia y tecnología, educación y turismo. En el transcurso del análisis de la agenda internacional fue constada la afinidad en la actualidad hacia la mayoría de las cuestiones actuales, incluidas las opiniones sobre la necesidad de un orden mundial más justo, la inadmisibilidad de la presión ilegal y la injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos, así como la necesidad de respetar la diversidad de sus vías de desarrollo. Una atención especial fue prestada al desarrollo de la diplomacia parlamentaria. El ministro informó a la parte argelina sobre los resultados de las elecciones parlamentarias en Belarus. Las partes confirmaron su interés en el desarrollo de la cooperación interparlamentaria, incluso mediante la creación de grupos de amistad y el intercambio mutuo de visitas. Sergei Alenik discutió las direcciones prioritarias de la cooperación industrial con el ministro de Industria y Producción Farmacéutica de Argelia, Ali Aoun. Las partes destacaron una serie de proyectos concretos para el ensamblaje de la maquinaria belarusa que en los próximos meses serán elaborados detalladamente por los agentes económicos interesados. Coincidieron en la necesidad de ampliar la presencia de las empresas industriales belarusas en el territorio de Argelia. Al mismo tiempo, la parte belarusa obtuvo la propuesta de utilizar esta plataforma para entrar con su gama de productos en el mercado de la zona de libre comercio africana. La parte argelina destacó la alta calidad de los fármacos belarusos y expresó su interés en la cooperación en este ámbito. Durante las negociaciones fue acordado el establecimiento de una interacción directa y la creación de grupos de trabajo sectoriales que proporcionan en los próximos meses sus proyectos de desarrollo más concretos. Ali Aoun aceptó la invitación y confirmó su intención de visitar Belarus próximamente para reunirse con su homólogo belaruso, conocer el potencial industrial de nuestro país, dando continuidad a las negociaciones. El ministro de Asuntos Exteriores de Belarus, Sergei Alenik, recibió al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular de China en Belarus, Xie Xiaoyun. Los interlocutores abordaron los temas actuales de la cooperación belaruso-china, las próximas reuniones a los niveles alto y más alto, entre ellos informaron en el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante la conversación, una atención especial se prestó a la preparación del plan de cooperación entre Belarus y China para el periodo hasta 2030 y a la promoción de proyectos cooperativos prometedores. En ese sentido, se discutió también la celebración del Año de la Cooperación en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Asimismo, se abordó el tema de la actividad de las organizaciones internacionales, teniendo en cuenta la próxima membresía de pleno derecho de Belarus en la Organización de Cooperación de Shanghái. Se confirmó la disposición a cooperar estrechamente con los países miembros de la misma, así como a cooperar en el camino de Belarus para entrar a formar parte de los BRICS. Las partes constataron el carácter estratégico de la cooperación entre los dos países, confirmaron su disposición a seguir prestando apoyo mutuo en cuestiones que afecten a los intereses fundamentales de ambos estados. Alrededor de 30 proyectos de inversiones están programados para ser implementados en el sistema del Ministerio de Silvicultura en 2024. Se trata tanto de la creación de nuevas producciones como de la modernización de las existentes. Por ejemplo, en la región de Vitebsk, el proyecto más emblemático será el de la explotación forestal del Yosno. Aquí se construirá un nuevo taller de serrería. Una producción nueva aparecerá en la economía forestal Belinichi de la región de Mogilov. En tres explotaciones forestales de la región de Minsk, los proyectos inversionistas se llevan a cabo en el marco del programa Una Región, Un Proyecto. Se planea que las nuevas fábricas con un número mínimo de empleados equivalente a 20 personas comenzarán a funcionar este año, señaló el servicio de prensa. En cuanto a otras explotaciones forestales, se planea que se abrirán las producciones nuevas o aumentará la capacidad de las existentes. En el ministerio comunicaron también que la mayoría de los recursos financieros en las economías forestales serán destinados a la renovación de la maquinaria. Por ejemplo, en la región de Minsk este año planean comprar 14 cosechadoras forestales y más de una veintena de autocargadores, así como otros equipos necesarios. La actualización oportuna del parque de maquinaria forestal contribuirá al aumento de la capacidad productiva de las instituciones del sistema del Ministerio de Silvicultura. El ministro de Asuntos Exteriores de Belarus, Sergei Oleinik, mantuvo una conversación telefónica con el viceprimer ministro en funciones, ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Ivica Dačić, informaron en el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Belarus. Discutieron temas más actuales de la agenda bilateral, así como la interacción entre Belarus y Serbia en el marco de las organizaciones internacionales, comunicaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los gobiernos de Belarus y Rusia firmaron un acuerdo sobre el desarrollo y la organización de la producción de Osvey, un avión multipropósito ligero de dos motores. El documento sobre los resultados de las negociaciones celebradas el 15 de abril en Moscú por los primeros ministros de los dos países, Roman Golovchenko y Mikhail Mishustin, fue firmado por el viceprimer ministro de Belarus, Piotr Parchomchik, y el viceprimer ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Manturov. Según destacó Roman Golovchenko, el acuerdo fue firmado para proteger la seguridad nacional y garantizar la soberanía tecnológica de Belarus y Rusia. Además, hemos encontrado una forma en la que Rusia y Belarus invertirán en este proyecto sobre una base de paridad y, como consecuencia, serán propietarios conjuntos del producto creado durante la implementación de este proyecto importante, enfatizó. El primer ministro aclaró también que este acuerdo es parte del programa integral de cooperación en el ámbito de la construcción de aviones recientemente firmado en Belarus y Rusia. El martes se resolvió la intriga principal de la temporada del hockey belaruso. El equipo Metalurg de la ciudad de Zlobin ganó la Copa del Presidente, dejando atrás el equipo Brest. Es la tercera vez consecutiva de su victoria. El cuarto juego de la confrontación final fue organizado por el Palacio de Hielo de la ciudad de Brest. Los invitados de Zlobin llegaron al partido final sin tener derrotas en la serie el 10 y el 12 de marzo. Los Lobos de Acero, jugando en su ciudad natal, prácticamente no dejaron oportunidades al rival. En el partido fuera de su ciudad también terminó a favor del Metalurg. En el periodo inicial, los rivales comenzaron empatando. En el transcurso del juego, el delantero más activo de Zlobin, Sergei Kostichin, dejó a su equipo en minoría dos veces, pero los anfitriones no pudieron aprovecharlo. En adelante, los jugadores competían mucho tiempo sin goles, pero tres minutos antes de enviar a los equipos al segundo descanso, el delantero de Metalurg, Konstantin Lukin, envió el disco a la puerta de Brest. El periodo final comenzó para los bisontes de la peor manera. 20 segundos después de salir de los vestuarios, Alexander Kohanov duplicó la ventaja de los invitados. Brest tenía suficiente tiempo para mejorar la situación, pero marcaron gol al equipo de los rivales. Al equipo entrenando por Sergei Puskov no pudo. Los vecinos de Zlobin lograron realizar dos ataques más. Por lo tanto, Metalurg conserva el título del equipo más fuerte de Belarus. La victoria en la Copa del Presidente fue para los Lobos de Acero la cuarta en la historia del club. Anteriormente, los jugadores de hockey de Zlobin recibieron el trofeo principal de la Extraliga en 2012, 2022 y 2023. La biatleta belarusa Anna Sola ganó el sprint en la cuarta y última etapa de la Copa de la Comunidad de Biatlón de la temporada 2023-24 en Murmansk. En la carrera tomaron parte 27 biatletas rusas y dos belarusas, Anna Sola y Daria Kudayeva. Celebró victoria Anna Sola, la rusa Irina Kazakevich cosechó la medalla de plata. Natalia Gerbulova de Rusia se colgó el bronce. Para hoy es toda la información. Esto fue el programa Belarus Hoy en Día, donde les contamos de los acontecimientos de la semana. Los materiales de los informativos fueron compuestos a base de los de la agencia telegráfica Belta y los materiales propios de Radio Belarus. Para vosotros ha trabajado Nadia Vishnevska. Hasta pronto.
El servicio Tax Free es una devolución de impuestos para los no residentes de la Unión Económica Euroasiática y un ahorro en compras de hasta un 15%. Al realizar compras de bienes a partir de 80 rublos belarusos, emita un cheque Tax Free presentando su pasaporte al empleado de la tienda. Los recibos de efectivo y un sobre especial se adjuntan al cheque Tax Free. Al exportar mercancías desde el territorio de la República de Belarus, recibirá una marca de confirmación de exportación en el recibo de Tax Free al presentar las mercancías empaquetadas al funcionario de aduanas. Presente los datos necesarios en el cheque, póngalo en un sobre especial en la casilla Tax Free y reciba un reembolso en su tarjeta bancaria. O comuníquese con una sucursal de Belarus Bank y reciba un reembolso en efectivo.
Estimados oyentes, sus cartas más interesantes se colocan ahora en una sección especial del sitio web de la Radio Internacional Belarus, www.radiobelarus.tvr.by, en adelante la sección buzón de correo. Busquen sus cartas y las respuestas a ellas en nuestro buzón de correo.
Und восточно-западным регионам Беларуси.
Escuchen Radio Беларусь.
208-07, Минск, Республика Беларусь.
Если вы спросите, что такое Беларусь, ответим, что это страна, которую возник.
Приезжаешь, они очень тепло встречаются белорусов.
Прыгожая, поэтичная назва. Найлепшее значение для нашей краины.
C'est la radio Biélorusse internationale de Minsk.
Biélorusse d'aujourd'hui, les événements principaux de la vie politique, économique et socioculturelle des pays sur les ondes de la radio Biélorusse.
Bonjour chers amis, vous écoutez la radio Biélorusse. Voici les sujets principaux de l'émission, en bref. Alenik a discuté des perspectives d'interaction avec l'ONU, avec le coordinateur résident des Nations Unies au Biélorus. Khartoum, l'économie maintient une dynamique positive stable. Le Comité national des frontières et l'UNICEF renforcent leur coopération. Ne quittez pas s'il vous plaît pour en connaître plus. Commençons par les actualités officielles. Le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Sergueï Alenik, a rencontré le coordinateur résident de l'ONU au Biélorus, Rasoul Baguirov, qui lui a présenté une lettre d'accréditation du secrétaire général de l'ONU concernant sa nomination à ce poste, selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères. Les interlocuteurs ont échangé leurs points de vue sur l'état et les perspectives d'interaction entre le Biélorus et l'ONU, le développement social et économique du pays et la réalisation des objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 de développement durable ont été identifiés comme domaines prioritaires. Lors de la réunion, les parties ont soulevé les questions concernant l'impact négatif de la politique de sanctions illégales sur le développement durable, notamment sur la sécurité alimentaire mondiale et sur les activités du programme des Nations Unies en République du Biélorus, a noté le service de presse du ministère des Affaires étrangères. Lors de sa visite officielle en Algérie, le ministre des Affaires étrangères du Biélorus, Sergueï Alenik, a été reçu par le président de ce pays, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État algérien a reçu un message du président biélorusse Alexandre Loukachenko contenant des propositions concrètes pour le développement de la coopération bilatérale. Les parties ont souligné le caractère constructif des relations biélorusso-algériennes et la coïncidence des positions des deux pays sur les questions internationales les plus urgentes, y compris la reconnaissance de la diversité des voies de développement des États indépendants. Plusieurs sujets de coopération bilatérale et projets de coopération industrielle et technique ont été discutés. Les questions d'interaction dans les domaines de l'éducation, de la science, de la technologie, de la santé et du tourisme ont été abordées séparément. Les parties ont particulièrement souligné la nécessité d'intensifier encore l'ensemble des contacts, y compris les échanges de visites au plus haut niveau. Chers amis, vous écoutez la radio Biélorusse. Nous continuons notre émission avec les actualités économiques. Les économies du Biélorus et de la Russie ont passé avec succès une sérieuse épreuve. Le chef du gouvernement biélorusse, Roman Golovchenko, l'a déclaré lors des négociations avec son homologue russe, Mikhail Mishustin, à Moscou. Nous travaillons avec beaucoup de succès sur les volets extérieurs et intérieurs, malgré tous les défis auxquels la Russie et le Biélorus sont confrontés. En effet, nos pays ont fait preuve d'une sérieuse résilience dans ces conditions difficiles. Les économies de nos pays ont passé une sérieuse épreuve. En conséquence, selon les résultats de l'année dernière, le PIB de la Russie et du Biélorus a augmenté, ayant atteint un chiffre assez solide de 4%. La marge de sécurité qui s'est formée dans nos économies est assez importante. C'est pourquoi le travail coordonné et collectif de nos gouvernements sur les défis communs est probablement ce qui est le plus important pour nous à l'heure actuelle. « L'économie maintient une dynamique positive stable, a déclaré le premier vice-ministre de l'économie, Andriy Kartoun, en commentant les résultats du développement socio-économique du pays en premier trimestre 2024. Selon Andriy Kartoun, l'économie maintient une dynamique positive stable. La croissance en mars 2024 par rapport à mars 2023 est de 4,3%. L'agriculture affiche de bons résultats, 106,8%. Selon le premier vice-ministre, le commerce est également en croissance constante. Le commerce de détail, 113,1%, le commerce en gros, 105,8%, ce qui est largement dû à la croissance rapide des revenus réels de la population, ainsi qu'à la croissance contenue de l'indice des prix à la consommation. La construction figurant parmi les moteurs de la croissance, au même titre que l'industrie et le commerce. Comme l'a noté Andriy Kartoun, l'économie est soutenue par l'augmentation des ventes sur les marchés étrangers. Les exportations des marchandises en janvier-février se sont élevées à 6,2 milliards de dollars. Une augmentation de 1,5% a été réalisée grâce à une augmentation des volumes physiques. En particulier, il a été possible d'augmenter les exportations vers les pays d'Asie et d'Afrique, a-t-il souligné. D'ici 2030, le Bélarus prévoit de rediriger 25% de ses exportations d'équipements vers le marché africain. Le ministre de l'Industrie, Alexandre Rogojnik, en a parlé sur la chaîne de télévision ONT. Après que les principaux équipementiers ont quitté le marché russe, nous avons été chargés de combler ce créneau, a déclaré Alexandre Rogojnik. Le ministre a noté qu'en résolvant ce problème, le Bélarus a quelque peu négligé les marchés des pays lointains, mais la situation change. De bonnes livraisons ont commencé au Zimbabwe et au Nicaragua. Le Bélarus travaille avec succès sur le marché de l'Ouzbékistan. Nous y avons construit un centre multimarque pour les équipements biélorusses. Nous travaillons aussi avec la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et d'autres projets dont a parlé le président, a-t-il souligné. Selon Alexandre Rogojnik, d'ici 2030, l'objectif est de rediriger 25% des exportations vers le marché africain. Passons aux autres thèmes. Le Comité national des frontières et l'UNICEF renforcent leur coopération. Lors d'une réunion de travail entre les dirigeants du Comité national des frontières et le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Bélarus, les parties ont convenu de l'importance de protéger les droits des mineurs, indépendamment de leur nationalité et de leur statut migratoire. À la suite des négociations, un protocole d'accord a été signé, dont l'objectif principal est d'établir des partenariats à long terme. À l'avenir, il est prévu de mettre en œuvre l'initiative conjointe Frontières Amies des Enfants, visant à créer des conditions sûres et favorables pour traverser la frontière et garantir les intérêts des enfants, a noté le représentant de l'UNICEF au Bélarus, Rostam Kaidarov. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a commencé à coopérer avec le Comité national des frontières en 2019 dans le cadre du programme Frontières Amies des Enfants. Comme vous le savez peut-être, il y a des corridors spéciaux et des conditions spéciales pour enfants à l'aéroport de Minsk. Le but de l'UNICEF est d'aider ses partenaires nationaux à assurer les droits des enfants. Nous mettons en œuvre plusieurs projets dans le cadre du programme mentionné, par exemple « Ville amie des enfants » et de nombreux services destinés à aider les enfants. Les préparatifs de l'événement important dans la vie politique du Bélarus touchent à leur fin. La Commission électorale centrale résume les résultats des élections des délégués à l'Assemblée populaire pan-biélorusse. Il y aura au total 1200 délégués. L'Assemblée réunira 60 députés du Conseil municipal de Minsk, 290 personnes des régions du pays et 400 délégués de la société civile. L'Union des femmes, l'Association des anciens combattants, les syndicats, le parti Belarus, l'Union républicaine des jeunes ont profité de ce droit. L'Assemblée populaire pan-biélorusse n'est pas un événement nouveau pour le pays, mais elle a reçu un nouveau statut et des pouvoirs étendus dans le cadre de la constitution actualisée. Parmi ses délégués figurent également les deux chambres du Parlement, le président, le premier ministre, ses adjoints, les présidents des cours constitutionnels et suprêmes, leurs adjoints, les représentants des autorités locales. Nous vous rappelons que la première réunion de l'Assemblée nationale pan-biélorusse dans le nouveau statut aura lieu les 24 et 25 avril. La culture, l'exposition Vassili Sharangovitch 1939-2021, personnalité, artiste, maître, consacrée au 85e anniversaire de la naissance de l'artiste du peuple, sera inaugurée au Musée national des Beaux-Arts. L'artiste est entré dans l'histoire de l'art biélorusse du XXe siècle comme un maître exceptionnel du graphisme de chevalet et de livres avec un style créatif unique. L'exposition présentera des œuvres de Vassili Sharangovitch lui-même, ainsi que des œuvres de ses élèves et étudiants. L'exposition comprendra des linogravures classiques, des autolithographies, des monotypes et des dessins des années 1970 et 1980, ainsi que des œuvres plus récentes. De plus, l'exposition présentera des paysages à l'aquarelle créés au cours des dernières années de la vie de l'artiste. L'exposition de photos Pierres vivantes de l'Antarctique, consacrée au 70e anniversaire de la Société géographique biélorusse, a été inaugurée à la Bibliothèque nationale du Bélarus. L'exposition se compose de photographies prises par Yuri Guiguignac lors d'expéditions en Antarctique. Les photos racontent la vie sur le continent, de drôles de pingouins, des paysages incroyables et des phoques essayant de conquérir la technologie moderne, un ordinateur portable. Les photos de pierres vivantes méritent une attention particulière. Sous l'influence des intempéries physiques et chimiques, un bloc de glace ordinaire peut prendre la forme d'un chameau, d'un scarabée et de tous ceux que la pensée humaine peut imaginer. L'exposition montre également comment une personne survit dans de telles conditions. Et le sport. La biathlète biélorusse Anna Sola a remporté le sprint lors de la quatrième et dernière étape de la Coupe de biathlon de la Communauté des États indépendants de la saison 2023-24 à Mourmansk. Les filles ont été les premières à prendre le départ de la course de sprint. 27 biathlètes russes ont participé à la course, ainsi que deux biélorusses, Anna Sola et Daria Kudaeva. Cette victoire était la deuxième pour notre biathlète dans l'actuelle Coupe de la CEI. Lors de l'étape de janvier à Raubici, cela a remporté le départ groupé. Vladislav Demesh a apporté à l'équipe de tir biélorusse la première licence pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le tournoi de qualification olympique de tir a eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil. Plus de 460 athlètes de 76 pays ont participé à la compétition. Les deux meilleurs tireurs de chaque exercice ont reçu des licences à Paris. Les hommes et les femmes se sont affrontés pour les licences au tir au pistolet à l'air comprimé à 10 mètres. Vladislav Demesh a participé à la finale masculine. Le Biélorusse a marqué 235,9 points et a pris la deuxième place, remportant ainsi une licence olympique. Seul l'Italien Federico Maldini est parvenu à devancer Demesh. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. L'émission est préparée à partir des matériaux propres de la radio Bélarusse, de l'agence d'information Belta et des autres sources. À demain.
Le printemps à la radio Bélarusse.
Femmes éminentes du Bélarus. Yekaterina Vishnevskaya est l'oncogyne écologue la plus célèbre de notre pays. Lauréate du prix du Conseil des ministres de l'URSS, lauréate du prix d'État du Bélarus, académicienne de l'Académie des sciences et des arts Petrov. Elle a également reçu les disques d'or et de platine de l'Institut américain de biographie, le diplôme personnalité de l'année du Centre biographique international de Cambridge, 3 médailles d'argent, femme internationale de l'année, diplôme pour les réalisations du XXe siècle et 2000 personnalités remarquables du XXe siècle. La liste des récompenses et des réalisations de cette femme peut être énumérée à l'infini. Pendant 30 ans, une petite femme médecin fragile et gracieuse a passé de nombreuses heures par jour à la table d'opération, luttant sans relâche contre une terrible maladie, le cancer. On l'a souvent appelée la grande Catherine de l'oncogynécologie biélorusse pour les opérations brillamment réalisées, pour les milliers de vies sauvées, pour son immense contribution à la science et pour son caractère fort qui l'a aidé à défendre la vérité. Yekaterina Vishnevskaya est née le 25 décembre 1930 dans le village de Staraya Belitsa du district de Gomel. Son père, Yefim Vassilievitch, apprenait aux paysans à lire et écrire. Il fabriquait également diverses pommades pour les maladies de la peau. Yekaterina Yefimovna est diplômée de l'Institut de médecine de Vitebsk et, juste après ses études, elle a commencé à travailler comme médecin-chef dans un petit hôpital du district. Yekaterina Vishnevskaya a mis au point une nouvelle méthode de traitement combinée du cancer, du col de l'utérus et du corps de l'utérus qui a permis d'éviter les récidives. Avec d'autres scientifiques, elle a créé un nouvel équipement de radiothérapie qui a été enregistré en tant qu'invention et introduit dans toutes les institutions médicales de l'URSS ainsi que dans 11 dispensaires oncologiques de l'URSS. Le nouvel équipement créé sous sa supervision a fait l'objet d'une démonstration lors de l'exposition internationale Les technologies atomiques pour la médecine à Rome où elle a reçu 3 médailles. Les développements scientifiques et de recherche d'Ekaterina Vishnevskaya ont été reflétés dans plus de 430 ouvrages imprimés qui sont toujours utilisés par les médecins du Bélarus et de Russie dans le cadre de leurs activités pratiques. Cependant, Yekaterina Yefimovna n'était pas seulement une scientifique exceptionnelle, une femme médecin talentueuse, une chirurgienne oncogynécologue, mais aussi une personnalité publique aux multiples facettes. C'est sous sa direction et avec ses propres économies que l'église de Serge de Radonej a été construite au cimetière de Mikhanovitchi où son mari bien-aimé était enterré. En 2008, l'église orthodoxe biélorusse a honoré la contribution d'Ekaterina au développement spirituel en lui décernant la médaille de la vénérable Euphrosyne de Polotsk. 3 ans plus tard, Ekaterina Vishnevskaya a reçu le titre de femme de l'année, légende.
Music Box.
Река, судьбы река, крутые берега. Мы вспоминаем прошлое, порой грустим слегка.
Как ночью пел аккордеон, как пело счастье он.
Давай послушаем его и тихо подпоем. Давай послушаем его и тихо подпоем.
Играя аккордеон. Тех, кто был влюблен, а тех, кто нас любил, кто сердце нам дарил, играя аккордеон, а солнце золотом, о жизни обо всем, о самом дорогом.
Вернись, вернись, аккордеон, туда, где нас уж нет. И тех, чей образ мы храним за пеленою лет.
Кого ты звал, аккордеон, все ночи напролет. Еще кого-то ищет он и верит, что найдет. Еще кого-то ищет он и верит, что найдет.
Играя аккордеон от всех, кто был влюблен. Сердце нам дарил, играя аккордеон, а солнце золотом, о жизни обо всем, о самом дорогом. Най, на-на-на-на-най, най, на-на-на-на-на-най, най, на-на-на-на-на-най, на-на-на-на-най.
Играй аккордеон,
играй,
а всех, кто был влюблен, а тех, кто нас любил,
кто
нас сердце
любил.
Нам дарил.
Играй аккордеон, а солнце золотом, о жизни обо всем, о самом.
这里是白俄罗斯广播电台，这是值得信赖的关于白俄罗斯政治、经济、社会和文化生活的信息源泉。我是中国汉办派往白俄罗斯国立大学的汉语教师李佐，现在我受托于白俄罗斯广播电台在此播音。我们的记者和编译团队为您准备了可以持续收听的关于白俄罗斯国家和世界重要事件的全部报道，请保持收听白俄罗斯广播电台的节目。
专家称乌克兰和谈的好时机。白俄罗斯战略研究所分析师、历史学博士奥尔加·拉佐尔基纳表示，鉴于战场上的平静和弗拉基米尔·泽连斯基支持率的下降，现在是乌克兰和平谈判的好时机。奥尔加·拉佐尔基纳说，现在是重启谈判进程的好时机，因为我想说，敌对行动领域一直处于平静状态，双方都在解决一些战略问题，以节省资源。分析师还指出，西方对乌克兰的行动已经发生变化。白俄罗斯战略研究所分析师奥尔加·拉佐尔基纳总结说，弗拉基米尔·泽连斯基在国内的支持率也在下降，乌克兰现在正在动员，在所有条件公布后，其乌克兰的支持率将会进一步下降。为了维护乌克兰总统的合法性，并考虑到当今存在的所有现实，现在是谈判的好时机。亚历山大·卢卡申科也谈到了这一点，但我们尚未看到各方做好准备。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
白俄罗斯和阿尔及利亚正在研究互设大使馆和建立直航的可能性。白俄罗斯外交部长谢尔盖·阿列尼克在与阿尔及利亚外交和海外侨民部部长埃哈迈德·阿塔夫进行会谈后表示，白俄罗斯和阿尔及利亚正在研究互设大使馆和建立直航的可能性。白俄罗斯外交部负责人指出，我们正在积极研究在阿尔及利亚和白俄罗斯首都之间建立直航的可能性，以及相互开设大使馆，以便就一系列问题进行更密切的互动。他说，双方达成了一系列重要协议，旨在进一步加强两国之间的双边关系。白俄罗斯阿尔及利亚贸易和经济合作联合委员会第一次会议将于2024年举行。此外，双方还同意在2025年4月之前举行下一轮白俄罗斯阿尔及利亚政治磋商。谢尔盖·阿列尼克表示，在会谈过程中，我们都确认了相似的立场，即西方国家不得滥用人权机制，对主权国家施加单方面强力压制。他表示，白俄罗斯愿意与阿尔及利亚发展工业合作，白俄罗斯的技术在贵国早已广为人知，我们很高兴与阿尔及利亚的合作伙伴共同努力，开拓广阔的非洲市场。双方还讨论了粮食安全问题。外交部长指出，获得食物的权利应被视为一项不可剥夺的人权。在这方面，我们准备与作为北非领宣国家的阿尔及利亚在农业、水技术、食品加工和贸易领域开展积极合作。据他介绍，双方还就互访事宜达成一致，其中包括白俄罗斯总统和总理访问阿尔及利亚，阿尔及利亚工业和农业部长访问明斯克。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
白俄罗斯邀请一批阿尔及利亚儿童参加2025年健康营。白俄罗斯外交部长谢尔盖·阿列尼克在与阿尔及利亚外交和海外侨民部部长埃哈迈德·阿塔夫进行会谈后表示，白俄罗斯将于2025年邀请一批阿尔及利亚儿童参加健康营。外交部长表示，为了表达善意和友谊，我们邀请一批阿尔及利亚儿童于2025年前往白俄罗斯的健康营。他强调，白俄罗斯和阿尔及利亚有着牢固的伙伴关系历史，这种历史可以追溯到苏联时代。谢尔盖·阿列尼克表示，我们两国肩并肩，在相互尊重和合作的基础上建立了关系。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
白俄罗斯宣布将举办一场年轻人争夺知识产权领域最佳工作的竞赛。据国家知识产权中心报道，白俄罗斯宣布在年轻人中进行2023至2024学年知识产权领域最佳工作竞赛。竞赛旨在吸引公众对知识产权问题的关注，激发白俄罗斯在该领域的科学和人力资源的潜力。竞赛分为以下类别：最佳硕士论文、最佳毕业论文、最佳年级论文、最佳文章、最佳论文。文章主题应包括知识产权管理的当前问题，包括经济方面，为工业产权法、版权及相关权利客体的创建和使用过程中产生的关系提供法律支持，著作权和其他权利人财产权的集体管理、专利信息支持等问题。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。这里是白俄罗斯您的朋友广播栏目。
Белорусская пуша。别罗维日森林。别罗维日国家公园坐落于波兰和白俄罗斯的边境，这是欧洲境内上留下来的最大的史前原始森林。别罗维日公园从15世纪初就是世界上最古老的保护区之一，这里最古老的树木已经有500多年。别罗维日的橡木和云杉树高达50多米，在森林公园中生长着数百种植物和生活着上千万种的动物。别罗维日国家公园的骄傲是拥有世界上最大的野扭群，这些珍贵的动物是白俄罗斯的象征，因此森林公园被称为国际科学认知生态旅游中心，来自不同国家的客人在这里都可以领略到其独特的自然魅力。别罗维日森林公园不仅仅是一座原始森林，也是诗人和音乐家称赞和歌唱的源泉。来到这里后，您可以留宿在伯爵庄园或居住在威士库林酒店，这里也是前苏联新历史开始的地方。在冬季节日的时候参观圣诞老人的庄园，开始一段童话密云的旅途。1992年，别罗维日森林公园列入到人类世界文化遗产，我们邀请您来这里感受大自然的奇迹。欢迎来到白俄罗斯。
这里是白俄罗斯您的朋友广播栏目。
白俄罗斯是一个热爱图书、有读书传统的国家。今天的白俄罗斯人是一个读书的民族。每年九月的第一个星期日是白俄罗斯语言文化日。它是国家规定的节日，庆祝这个节日表现了我们白俄罗斯民族的精神传统，见证了白俄罗斯的印刷文字与其历史及文化的统一。按照传统，白俄罗斯语言文化日在教育、文化和印刷中心举行，在有着丰富文化遗产的城市举行。这些文化遗产和白俄罗斯杰出人物的生活和事业紧密地联系在一起。白俄罗斯语言文化日是一个难得的机会，因为可以了解最新的好书，能够与白俄罗斯和外国作家、新闻工作者以及出版商会面，聆听诗人、作家、创作团队和演员的表演。在这个节日里， 我们向那些创建了白俄罗斯语教育和语言文字基础的祖先们致敬。亲爱的朋友们，和我们一起庆祝白俄罗斯语的节日吧，欢迎来到白俄罗斯。
白俄音乐盒， 白俄音乐盒。
Плечи целовал, согревал.